On vous a invité notamment, M. Paris, pour faire un peu un inventaire de, des ex-collaborateurs et proches de Trump, haut gradés à la Maison-Blanche, qui sont devenus carrément des lanceurs d'alerte, qui mettent en garde les Américains sur différents comportements et agissements du président Trump. Est-ce qu'ils ont une écoute de la part de la population américaine ou c'est devenu comme un bruit de fond, ça, avec la révélation de la semaine?
Alors, on a le sentiment effectivement que le pays est tellement divisé en deux blocs totalement imperméables que tout ce qui peut être dit contre le président va plaire évidemment à un camp et va être jugé totalement pas crédible par l'autre. Il n'empêche, il est quand même rare qu'un président se retrouve mis en cause à ce point par un nombre aussi élevé d'anciens collaborateurs. Ça dit quoi? Ça dit que, petit 1, Trump est très seul. Il n'a pas réussi à constituer autour de lui une équipe, c'est moins qu'on puisse dire. Et petit 2, les accusations sont quand même sévères parce qu'elles se recoupent, y compris de la part de personnes qui, comme John Bolton ou Rex Tillerson ou James Mattis, n'entretenaient pas les meilleures relations. Donc on peut considérer que dès lors que deux personnes qui n'ont pas les mêmes opinions, qui ont un regard parfois très critique porté l'un sur l'autre, disent la même chose, ça donne vraiment du sérieux et du poids à leurs propos.
Si vous aviez à mettre le doigt sur laquelle de ces révélations, lequel de ces lanceurs d'alerte, si on veut, ou de traîtres, peut-être, selon la pensée de Trump, a fait le plus mal à Donald Trump, de toutes
Alors,
ces révélations?
Ouais. On a l'embarras du choix, si je puis dire. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est la prise de position de James Mattis après l'affaire de la place Lafayette, si vous vous souvenez, lorsque le président avait fait évacuer de manière assez radicale des manifestants pacifistes pour poser devant une église avec une Bible à la main. Et il est entouré du secrétaire à la défense et du chef d'état-major. Et après cette séance photo, James Mattis avait pris la parole dans le magazine The Atlantic pour dire « Attention, ce président nous divise, il n'est pas à la hauteur et surtout, il n'a aucun souci de la Constitution. » James Mattis, parce que c'est un républicain, parce que c'est quelqu'un qui avait gardé le silence depuis qu'il avait quitté l'équipe Trump il y a maintenant de cela plus d'un an, a un crédit plus fort que les autres. On sait que John Bolton, par exemple, qui a publié ce livre qui fourmille de détails dévastateur pour le président, a un agenda politique très clair. C'est un faucon, il trouve que Trump a été trop tendre vis-à-vis de la Corée du Nord, du Venezuela, de l'Iran. On peut imaginer que toutes ces révélations s'inscrivent dans une démarche politique. Ce n'est pas le cas avec James Mattis. James Mattis n'a aucune ambition politique, il donne simplement son avis et l'avis d'une personne qui parle peu pèse évidemment plus que quelqu'un qui se répand sur les ondes.
Et en plus, il parle d'une question de politique intérieure des États-Unis et non pas de questions de relations internationales, de dossiers qui peuvent être peut-être parfois plus loin des gens, de la population, de l'électeur moyen, disons.
Absolument, c'est une mise en garde sur ce que Biden, de son côté, dit c'est l'esprit des États-Unis qui est en jeu. James Mattis, lorsqu'il te dit « Attention, ce président cherche à nous diviser, il n'essaie même pas de nous rassembler », ça peut concerner un électorat centriste, modéré, qui peut trouver que dès lors que James Mattis prononce ces paroles, elles ont une importance significative.
Non, mais je vous remercie beaucoup, M. Paris, de nous avoir aidé à faire un petit tri dans toutes ces révélations chocs qui se multiplient et d'encercler la tâche. Alors, merci beaucoup.
Merci.